Nous venons de chanter « Voir mon Sauveur face à face ». Et le sujet de notre méditation dans la parole de Dieu, c'est la joie de voir. La joie de voir Dieu. Et je vous invite à prendre vos Bibles et à trouver Matthieu chapitre 5 et le verset 8 où nous regardons une par une ce qu'on appelle ces béatitudes, un mot qui veut dire béni. C'est un mot que nous retrouvons assez souvent dans les psaumes. Certaines personnes sont déclarées bénies. Nous retrouvons ici dans le serment de Jésus qu'il a donné sur la montagne. Nous le retrouvons encore dans les épîtres. Nous retrouvons encore dans le dernier livre de la Bible, le livre d'Apocalypse, où certaines personnes sont décrites comme bénies. Et une des raisons pour lesquelles ces personnes sont heureuses, sont bénies, c'est parce que certaines personnes verront Dieu. C'est Matthieu chapitre 5, verset 8. Et Jésus a dit, heureux ou bénis ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous avez peut-être entendu la phrase, une vision béatifique. Une vision béatifique. Dans sa première définition, c'est la vue que les élus ont de Dieu dans le ciel. Ça, c'est la définition que donne le dictionnaire. La vue que les élus ont de Dieu dans le ciel. Malheureusement, c'est utilisé couramment dans les milieux surtout catholiques pour parler de tout phénomène surnaturel et surtout de nos jours des apparitions de Marie. Une personne a vu Marie, enfin, se dit qu'ils ont vu Marie ou un autre saint. On appelle ça des visions béatifiques. Mais aurons-nous une vue de Dieu dans le ciel? Aurons-nous cette vision béatifique? Est-ce que c'est un espoir, une espérance que vous avez, une confiance que vous verrez un jour Dieu? Est-ce que vous avez réfléchi à cela? Parce que, j'arrive à mon verset, Jean 1, 18 nous dit que personne n'a jamais vu Dieu. Colossiens 1, verset 15 l'appelle le Dieu invisible, c'est une de ses caractéristiques, c'est le Dieu invisible. 1 Timothée 1, 17 donne donc la louange à Dieu, le roi des siècles, immortel, invisible, sans seul Dieu. Un peu plus loin, dans le même épître, il parle du bienheureux. C'est intéressant parce que c'est le même mot, hein, quand on parle des béatitudes, heureux, bienheureux, ben Dieu est le bienheureux de tous les heureux. Et seul souverain, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. À qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Il n'y a pas de plus clair que cela. Personne ne l'a vu ni peut le voir. C'est ailleurs aussi, en 1 Jean, chapitre 4, verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est Jean qui l'a dit, Jean chapitre 1. On le retrouve en 1 Jean, chapitre 4. Il redit au chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Dieu est décrit ici comme celui qu'on ne voit pas. Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Est-ce que c'est simplement parce que nous n'avons pas la capacité de le voir? Non, c'est plus que cela. Jésus lui-même a dit à la femme samaritaine que Dieu est quoi? Dieu est esprit. Dieu est esprit. C'est-à-dire, Dieu n'a pas de forme. Catéchisme qu'on est en train d'apprendre à nos enfants qui dit que Dieu n'a pas de corps comme l'homme a un corps. Ben en fait, ça dit qui est Dieu et la réponse est Dieu est un esprit, Dieu est esprit et il n'a pas de corps comme l'homme. Alors, il se trouvait que mon papa était là il y a quelques mois, il parlait de cela et il avait demandé à un de mes fils, si Dieu a un corps. Et mon fils a dit oui. Il a dit parce que Dieu n'a pas de corps comme nous. Donc, lui, il a écouté cette réponse. Dieu a certainement un corps parce qu'il n'a pas de corps comme nous. C'est-à-dire, il a un corps, mais qui est différent que nous. Mais en fait, il a mal compris. Dieu n'a pas de corps comme nous avons de corps. Dieu est sans corps. Dieu est esprit. Il n'a pas de forme dans ce sens. Et c'est pour cela qu'il ne peut pas être vu. Il n'a pas de forme physique pour qu'on puisse le voir physiquement. Alors, si tout cela est vrai, comment comprendre ce que dit Job? Et ceci est très surprenant, Job 19, vous savez peut-être tout ce que Job a souffert, mais il dit, « Quand ma peau sera détruite, il se lèvera, quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je verrai Dieu. » Et moi, je trouve que ce verset est très étonnant pour au moins deux raisons. La première raison, c'est à cause de l'époque dans l'histoire de la rédemption. Nous sommes probablement à l'époque d'Abraham. Job n'a pas les psaumes. Il n'a pas même les écrits de Moïse. Job n'a pas de révélation écrite de Dieu et pourtant il a cet espoir qu'il verrait un jour Dieu. C'est surprenant à cause de l'époque, mais c'est surprenant aussi à cause de la référence à quelque chose. Quand il dit, regardez-le, « Quand ma peau sera détruite », il ne dit pas « dans une semaine, dans un jour, avant ma mort », comme Siméon, il avait eu la promesse qu'avant sa mort, il allait voir le Rédempteur, et donc il attendait cela. Job, il ne dit pas cela, il dit « quand ma peau sera détruite », c'est-à-dire après ma mort, après que ma peau et ma chair redeviennent la poussière, alors je verrai Dieu. Ça fait référence, on le dit, à la résurrection du corps. À la résurrection du corps, parce qu'il s'imagine dans un temps après sa mort, après que son corps soit péri et qu'il verrait donc Dieu. Alors, de quoi parle Jésus? De quoi parle Jésus? Eh bien, une première chose qu'on peut dire, avant de venir à ce que je crois est là vraiment le noyau de ce qu'il est en train de dire, il y a une vue de la foi à travers un miroir. Il y a une vue de la foi. Et vous avez ici le verset en Hébreu 11 qui parle de Moïse. Et c'est frappant, je crois, parce qu'il dit que c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est une image, il voit quelque chose qui est invisible. Il voit, c'est invisible, mais il voit. Et si on se demande, mais comment est-ce qu'il voit sans voir? Bien, le début de le verset nous dit que c'est par la foi. La foi qu'on peut voir sans voir, qu'on peut voir des choses invisibles. Et c'est expliqué en partie par le premier verset de ce même chapitre qui dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, écoutez cette définition de la foi, c'est une démonstration de celles, c'est-à-dire des choses qu'on ne croit, qu'on ne voit pas. La foi, c'est une démonstration. La preuve des choses qu'on ne voit pas, elle s'opère dans le domaine de l'invisible. Et donc, nous pouvons d'une, par la foi, voir actuellement la gloire de Dieu. Vous savez que vous pouvez faire ça? Vous pouvez voir aujourd'hui, par la foi, la gloire de Dieu. On le voit à travers un miroir. Si vous avez vos Bibles, prenez 1 Corinthiens chapitre 13, bon, juste un verset ici, avant d'aller en 2 Corinthiens. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 13, il fait mention du fait qu'on voit actuellement, mais que cette vue est sévèrement limitée comparée à celle qui sera un jour. Et puis on verra que néanmoins cette vue de Christ est réelle et qu'elle nous transforme. Mais 1 Corinthiens chapitre 13, on saute, qui parle de l'amour, hein, mais on saute jusqu'au verset 12 qui dit ceci. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis à travers un miroir. Nous avons un outil qui nous permet de voir. Cet outil, ça donne le nom d'un miroir. Alors on peut se demander ce que c'est. Vous devez, en fait. J'espère que vous êtes en train de vous demander ce que c'est, ce miroir. Mais avec ce miroir, nous voyons d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons comment? Face à face, nous avons chanté « Voir mon Sauveur face à face ». Une référence à ce verset. Aujourd'hui, voyez le contraste. Aujourd'hui, mais alors. Il revient. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Et Dieu me connaît parfaitement. Donc voici le contraste. On voit d'une manière obscure. Qu'est-ce que ça veut dire de voir d'une manière obscure? Il le dit dans la phrase suivante. Je connais en partie. C'est-à-dire, nous ne voyons pas tout. Ça ne veut pas dire que l'image est faussée. Il ne faut pas l'imaginer comme ça. Ah, je le vois comme rouge, mais en fait, c'est bleu. C'est pas ça. C'est que ce que je vois est réel et vrai, mais elle n'est qu'une partie de la totalité. Comme si je regarde à travers un trou. Ce que je vois est vrai, mais je suis très limité dans la vue que j'ai. Je vois pas encore tout ce qui est devant moi. Donc, de voir obscur ne veut pas dire que l'image est faussée, mais qu'elle est limitée. Nous ne pouvons pas voir beaucoup, nous ne pouvons pas voir entièrement, mais nous voyons au moyen du miroir. Alors, trouvez 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens maintenant, pas très loin, chapitre 3. Et le verset 14. Et là, il y a un contraste de ceux qui voient et ceux qui ne voient pas. 2 Corinthiens 3, verset 14. Mais il, et je vous, juste pour que vous sachiez de qui il parle, ici, il parle des Juifs, en fait, qui ont une connaissance de la loi de Dieu, mais qui ne sont pas convertis. Ils ne sont pas en Christ. Donc, très important de savoir, ils ont la loi de Dieu, ils ont la Bible. Mais, regardez le verset 14, « Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. » Donc, on parle du vision ici. « Mais eux, ils ont un voile devant les yeux. » Il y a quelque chose à voir, mais eux, ils ne le voient pas. Et qu'est-ce qu'il y a à voir ici? C'est la lecture de l'Ancien Testament. Ils la lisent, mais ils ne la voient vraiment pas. Ils ne comprennent pas, en fait, l'Ancien Testament. Jusqu'à ce jour, il dit, verset 15, quand on lit Moïse, les écrits de Moïse, l'Ancien Testament, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le voile est ôté, est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous voyez, l'homme ou la femme non régénérée, inconvertie, ne peut pas comprendre Christ, ne voit pas la gloire de Christ. Ils sont encore aujourd'hui aussi confus que les Juifs quand ils lisent Moïse. Ils ne comprennent pas sa divinité, ils ne comprennent pas sa puissance, ils ne comprennent pas sa gloire qui est majestueuse et au-dessus des flots de la mer, comme nous avons vu aujourd'hui. Et peut-être c'est vous, peut-être ça vous décrit ici ce matin. Vous pouvez bien sûr lire les paroles, mais le sens, l'importance de Christ, franchement, ça ne vous parle pas. Il vaut mieux passer 100 ans à faire autre chose qu'à contempler la gloire de Jésus-Christ. C'est comme certaines formules dans Matt, je peux bien les lire, mais ça ne me dit rien. Et des gens qui lisent par rapport à Christ, mais ça ne leur parle pas, ils ne voient pas la gloire, la majesté de Christ. Pourquoi ? Il y a un voile, la Bible dit. Ils regardent Christ dans les Écritures, mais leurs yeux sont voilés. Seulement Christ peut enlever le voile. Mais nous, regardez verset 18, le contraste. Nous tous, qui le visage découvert, et ça c'est le grand contraste, hein, ceux qui ont les yeux voilés, nous avons les yeux découverts, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et il venait de parler quoi ? Les Juifs regardaient où ? Regardez là, loi de Dieu, n'est-ce pas, la Bible. Mais ils ne voyaient pas la gloire de Dieu. Nous, maintenant, quand nous contemplons, et qu'est-ce que nous contemplons ici ? Dans le contexte, c'est la même chose. Nous contemplons aussi la Bible, nous contemplons aussi les écrits de Moïse. Sauf qu'ici, il dit, nous contemplons comme dans un miroir. Donc, quand il compare les écrits de la Bible à un miroir. Un miroir. Alors, souvent, quand vous pensez à un miroir, vous pensez au reflet de vous-même. Normalement, quand on regarde dans un miroir, c'est pour se voir. Hein, égoïste que nous sommes. Mais c'est une bonne chose quand même. Hein. Ma femme me demande de le faire parfois, de se regarder dans le miroir. Mais parfois, vous êtes sur la route et vous voyez qu'il y a un virage ou il y a une sortie obscure. Et souvent, on met un grand miroir. Est-ce que c'est pour se voir ou est-ce que c'est pour voir autre chose et pour prévenir un accident ? Et donc, là, le miroir, c'est quelque chose qui reflète quelque chose à nos yeux. Et donc, il dit que les écrits de la Bible et même l'Ancien Testament sont comme ce miroir qui reflète quelque chose à nos yeux. Qu'est-ce que ça reflète à nos yeux ? Il dit, qu'est-ce qu'on voit ? Nous contemplons, regardez verset 18 encore, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Vous voyez, ça c'est votre Bible. Elle est un miroir. Vous avez joué parfois avec quand il y a du soleil, vous pouvez même mettre des rayons de soleil dans les yeux de quelqu'un d'autre, même avec la montre parfois, on jouait ça quand j'étais jeune. Si on regarde bien le miroir, elle est là pour refléter sur nous la gloire du Seigneur. À travers la Bible, nous devons voir la gloire du Seigneur. Mais la tristesse, c'est qu'il y a des gens qui regardent et ils disent « Mais je vois rien, je vois pas de gloire. » Parce qu'ils ont les yeux voilés. Et donc ils s'ennuient en fait. Et il le met de côté, parce qu'il ne voit rien. Mais nous qui avons les yeux découverts, le visage découvert, nous contemplons dans un miroir, donc dans la Bible, la gloire du Seigneur. Donc quand il dit « nous voyons à travers un miroir », il parle de la Bible, ce qui est destiné par Dieu pour refléter sur nous la gloire du Seigneur. Et bien sûr, on ne voit pas le corps de Jésus, mais on voit sa gloire qui est révélée dans l'Évangile et dans toute l'histoire de la Bible. Et ceci devient encore plus clair si vous regardez juste un chapitre plus loin, parce qu'il est un peu dans le même sujet, et il dit dans chapitre 4, verset 3, si notre Évangile est encore voilé, là il revient encore à cette image du voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules, ça c'est ceux qui périssent, sont ceux qui ne croient pas, hein, les incrédules, dont le Dieu de ce monde, référence au diable, à aveugler l'intelligence afin qu'il ne voie pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Il y a plusieurs façons de traduire ce verset, mais j'aime bien cette traduction, l'éclat que projette l'évangile. L'évangile projette un éclat de la gloire de Dieu sur nous. Mais il y a des gens qui ont les yeux bandés. Ils ne voient pas, les yeux aveugles, pour ne pas voir cette gloire de Dieu. C'est donc la gloire du Seigneur qu'il faut voir. On peut lire l'histoire d'un bébé dans la crèche à Bethléem sans voir la gloire du Seigneur. Il faut l'Esprit de Dieu qui ouvre nos yeux. Et je vous encourage, mes amis, chaque matin quand vous lisez la Bible, de prier avant la lecture, « Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir les merveilles qui sont. » Elles sont là. Mais même en tant que chrétiens, nous avons besoin de son aide pour pouvoir les voir. Et il dit au verset 18, pour revenir au chapitre 3, 2 Corinthiens 3, verset 18, il dit que nous sommes quoi ? En voyant la gloire, nous sommes transformés. Transformés en la même image, de gloire en gloire. C'est-à-dire un degré de gloire, un autre degré de gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés. En regardant, nous sommes transformés. Donc il y a aujourd'hui une gloire, une vue de la foi à travers le miroir qui est la Bible. Et un signe que vous êtes vraiment chrétien en Christ, c'est que vous aimez la Bible. Vous aimez la Bible parce que vous trouvez des délices et la gloire de Dieu là-dedans. Mais il y a, deuxièmement, il y a une vue optique et directe. Une vue optique. Optique, c'est-à-dire ce qui appartient à l'organe de la vue, à la vision. Il y a une vue, nous verrons avec nos yeux. Nos yeux. On a enterré mon papa, on l'a enterré avec ses lunettes. On s'est dit, bon, quand il sera ressuscité, ça sera sans lunettes. On verra sans lunettes Dieu. Comment est-ce qu'on verra Dieu ? Et je vous invite à trouver Jean chapitre 1, le verset 18, parce que je vous ai cité une partie de ce verset tout à l'heure. Personne n'a jamais vu Dieu. Ok, Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le verset continue. Et c'est cette explication qui nous aide à savoir comment comprendre cette promesse que nous verrons Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu est esprit. Et d'ailleurs, Dieu le Père était esprit, Dieu le Fils était esprit, Dieu le Saint-Esprit était esprit, Dieu trinitaire était esprit, les trois étaient esprit, c'est tout. Mais la Bible nous dit qu'une de ces personnes dans la Trinité, Dieu le Fils, il a pris chair. C'est dans ce même chapitre. Il a pris chair. Il est venu parmi nous. Pourquoi est-il venu parmi nous ? Pourquoi Dieu devient homme ? Parce que personne n'a jamais vu Dieu, mais maintenant Dieu le Fils unique, est venu pour faire connaître Dieu. Donc la première chose qu'on peut dire de cette vue, c'est que cette vue est christologique. Christologique. Il faut toujours l'interpréter, il faut toujours comprendre avec Christ au centre. La façon que nous verrons Dieu, c'est en regardant à Jésus-Christ. Même au ciel, nous ne verrons pas Dieu le Père, il est esprit, nous ne verrons pas avec nos yeux, nous y serons avec nos corps. Mais Dieu le Père ne sera jamais au ciel avec son corps, il n'a pas de corps. Mais nous verrons avec nos corps, nous verrons Dieu à travers son Fils. Même au ciel, Dieu le Fils sera centre, restera au centre de notre vue de Dieu. On le voit à travers le Fils unique. Tite, chapitre 2, vous n'avez pas besoin de le chercher, mais je vous cite les versets 11 à 13. Il dit « La grâce de Dieu, source de salut, est apparue, a été manifestée. Source du salut pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance. » C'est titre 2.13. Et la manifestation, écoutez ce mot, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Nous attendons la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc nous verrons Dieu, Dieu se manifestera à travers Dieu le Fils, car il est lui-même Dieu. Et Jésus a pu dire que celui qui m'a vu a vu le Père. Cette vue donc sera christologique, cette vue est physique. J'ai déjà cité Job quand il a dit « Quand je n'aurai plus de chair, même je verrai quand même Dieu ». Une référence à sa résurrection, mais c'est encore plus clair en 1 Jean par exemple quand il dit que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, 1 Jean 3:3, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et en Philippiens chapitre 3 et verset 20, c'est lié à notre corps. Il dit que nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc nous attendons le Seigneur et il va transformer nos corps. Donc, nous le verrons avec nos corps. Et puis, je vous cite la dernière grande requête de Jésus en Jean 17, quand il a dit, verset 24, « Je désire que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. » Et vous lisez 1 Corinthiens 15, on n'a pas le temps, mais c'est clair que ce corps corruptible sera changé. Que ce corps mortel sera changé. Et donc, nous le verrons avec nos corps. Mais la question se pose, est-ce que cette vue vous rendra heureux? Est-ce que cette vue vous rendra heureux? Et je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons lire quelques passages en Apocalypse parce que ça parle de la fin. Et Apocalypse chapitre 6, c'est une question très importante pour vous tous. Vous dites, j'aimerais bien voir Dieu. J'ai parlé cette semaine dernière, c'était mardi, avec un monsieur, il m'a dit, il a levé les bras comme ça, il a dit, moi je suis comme l'apôtre Thomas, il a dit. Quand je verrai, je croirai. Voilà. Il a dit, mais tant que je ne vois pas, il a dit, c'est vrai, vous dites que quelqu'un est mort, il est monté au ciel, je vais dire, mais qu'est-ce que tu as fumé? Quand je verrai, je croirai. Donc on a cette idée, ouais, j'aimerais bien le voir, et puis je croirai. Mais regardez, quand il apparaît, donc Apocalypse 6, je vais sauter un peu à cause du temps, verset 15, « Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves, les hommes libres, c'est tout le monde, hein? Les forts comme les faibles, les riches comme les pauvres, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent. Hein, ce n'est pas des badauds, comme quelque chose se passe en ville, tout le monde vient pour regarder, pour voir. Ah non, ils ne font pas ça, ils s'enfuient, ils se cachent. Dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, verset 16, et ils disent aux montagnes et aux rochers, c'est comme ils crient cette prière, aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Je crois que la pire des visions qu'une personne puisse voir, c'est la colère de l'agneau. Imaginez, celui qui est venu vous sauver, celui qui est venu non pour juger le monde, un jour il viendra en colère. Et la Bible dit que tout genou fléchira devant lui, il appellera Seigneur. Mais imaginez voir la colère de l'agneau. C'est une image agneau-colère qui est épouvantable en elle-même. Et il dit, cachez-nous de sa face. C'est un peu le... Ça nous fait penser au jardin d'Éden où vous rappelez, Adam et Ève se sont enfuis, ils se sont essayés de cacher derrière des feuilles, mais là, ils ne veulent pas voir la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Et puis regardez le chapitre 14, Apocalypse chapitre 14. Et nous revenons à ce même sujet qu'il faut prendre au sérieux parce que ça sera votre cas si vous n'êtes pas en Christ. Apocalypse 14, verset 9, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère et sera tourmenté dans le feu et le soufre. » Regardez la dernière phrase du verset 10. Apocalypse 14, verset 10. « Devant les saints anges, et devant l'agneau. » Je ne sais pas si vous avez réfléchi à cela, mais il y a un aspect où l'enfer sera vécu devant l'agneau. Toute l'éternité. On dit parfois que l'enfer est là où Dieu n'est pas. Et dans un sens, c'est vrai, mais il y a toujours le regard de Dieu. On ne peut pas s'enfuir. Même dans l'enfer, on ne pourra pas tourner le dos. On passera l'éternité sous l'œil de Dieu, sous son regard de jugement et de colère. Imaginez cela. Sous l'œil, un enfant, n'importe qui, vous prenez quelqu'un, même si c'est en train de prêcher, hein, je ne le fais pas, mais si je prenais un de vous, je commençais à vous regarder, et puis je prêche, vous allez vous sentir mal à l'aise après un certain temps, non? Et imaginez devant la face de la colère de Jésus. La colère de Dieu est une sainte colère, une bonne colère, et elle sera démontrée pendant toute l'éternité. Dieu démontrera, l'agneau démontrera sa colère pendant toute l'éternité. Et il dit au verset 11, regardez, « Ils n'ont de repos ni jour ni nuit. » Contrastez cela avec le verset 13. Regardez le verset 13. « Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux. » Ah, finalement, la bonne nouvelle. Hein? Et on revient à nos béatitudes. « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Verset 11, « Certaines personnes n'ont de repos ni jour et nuit. » Verset 13, « Afin qu'ils se reposent de leurs travaux. » Et Apocalypse 22, versets 3 et 4, dit, « Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et ils verront sa face. » Ils verront sa face et son nom sera sur leur front. Alors il y a ceux qui, en voyant Dieu, se cachent et qui sont épouvantés, on a dit en psaume 2, hein, qu'il va les épouvanter dans sa fureur. Il y en a qui, ceux qui voient sa face et sont heureux, et sont heureux. Alors quelle est la différence? Quelle est la différence? Jésus le dit, pour revenir à notre texte, cette vue n'est heureuse que pour ceux qui ont le cœur pur. Ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ça nous fait penser à Hébreux 12, 14 qui dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Sans la sanctification, vous ne verrez pas le Seigneur. Et 1 Jean 3, 3 qui dit que quiconque a cette espérance en lui, c'est-à-dire d'être semblable à Jésus, il se purifie comme lui-même et pur. C'est cela qui fait toute la différence. Et bien sûr, ce n'est pas en se faisant pur qu'on verra Dieu. On a parlé de ça la semaine dernière. Non, mais le caractéristique de ceux qui aiment Dieu, c'est qu'ils aiment aussi la pureté. Alors, je vous demande, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que nous aimez? Désirez-vous avoir un cœur pur? Peut-être, bien sûr, en tant qu'humain, on ne l'a pas, mais pensez à David. Il a dit, « Oh Seigneur, c'est vrai que je n'ai pas, mais qu'est-ce qu'il prie à chaque fois? Purifie-moi et je serai pur. » Vous voyez, il vient devant Dieu et il désire la pureté. C'est une belle chose pour lui. Alors, quand vous êtes devant la télé, est-ce que vous désirez la pureté? Philippiens 4, 8 dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que ce qui est honorable, que ce qui est juste, que tout ce qui est pur, entre autres choses, soit l'objet de vos pensées. La pureté est d'abord une question de nos pensées et de nos cœurs. Quel est l'état de nos cœurs? Désirons-nous la pureté? Si vous ne désirez pas la pureté, vous ne désirez pas le ciel. Car Dieu lui-même est pur et il veut que nous soyons purs. Et qu'est-ce que c'est le contraire d'être pur? Bon, on peut penser à l'immoralité et certainement c'est ça aussi. Si on aime l'immoralité, si on aime le voir, l'entendre, le contempler, l'imaginer, nous avons un cœur qui n'est pas pur. Mais je termine en vous lisant un verset en Jacques chapitre 4. Il dit, approchez-vous de Dieu, c'est Jacques chapitre 4, verset 8, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Et puis il dit ceci, purifiez vos cœurs. Donc on parle d'un cœur pur. Qui n'ont pas le cœur pur? Il dit, purifiez vos cœurs, hommes, dans ma traduction, hommes irrésolus. J'ai une autre traduction qui dit, vous qui ont le cœur partagé. En fait, c'est ça. Au début de ce livre, il parle d'un homme qui a le cœur partagé, que cet homme ne s'imagine même pas qu'il aura quoi que ce soit de la part du Seigneur. Et vous savez, quand on prend de l'eau pure, dès qu'on ajoute quelque chose, même du sucre, du sable, l'eau n'est plus pure. Quand elle est pure, elle est entière, elle n'est pas divisée, il n'y a pas d'addition ajoutée. Et ici, il parle de quelqu'un qui a le cœur pur. Il dit, vous qui êtes des hommes ou des femmes irrésolus, vous qui avez le cœur partagé. Alors, on peut se demander, quel est l'état de nos cœurs? Est-ce que nous avons ce cœur qui hésite entre deux choix, comme avec Élie, il a dit, arrêtez d'hésiter entre Baal et Dieu, choisissez aujourd'hui. Est-ce que nous avons ce cœur? Oui, je veux ça, mais je veux ça. Ça, c'est un cœur qui est impur, qui est divisé. Un cœur pur et à 100%. C'est pour ça qu'on dit, je t'aime de tout mon cœur, n'est-ce pas? On ne dit pas, je t'aime de 50% de mon cœur. Ce n'est pas un amour qui est pur. Je t'aime de tout mon cœur. Aimons-nous le Seigneur de tout notre cœur. Et je suis sûr qu'il n'y a personne ici qui est parfait dans ce domaine. Mais il dit, sentez votre misère, soyez dans le deuil, dans les larmes, que votre rire se change en deuil, que votre joie en tristesse, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Voici la réponse, mes amis. Humilions-nous devant le Seigneur. Qui travaille en nous le désir d'avoir ce cœur pur, non partagé. Et puis ce cœur, pour que quand il viendra, nous n'ayons pas honte devant lui, mais nous le verrons tel qu'il est et nous serons comme lui et nous serons heureux. Prions le Seigneur. Merci notre Père du fait que tu offres ta joie à des hommes impurs comme nous. Que chacun ici, que nous puissions tous nous humilier devant toi, confesser notre impureté et connaître le sang de Jésus-Christ qui nous purifie encore une nouvelle fois de tout péché. Et donne-nous cet espoir de pouvoir te voir un jour face à face en Christ et cette impulsion chrétienne de nous purifier, de nous sanctifier comme toi-même es pur. Que cette semaine soit vécue dans la pureté, que nous ne mettons rien d'impur devant nos yeux, mais que nous puissions te plaire en toutes choses. Amen. Vous pouvez